Bienvenue dans Archi Différemment, une série de podcasts qui part à la rencontre de parcours singuliers d'architectes et explore le lien entre formation universitaire et pratiques actuelles des métiers. Je suis Clotilde Béroux et aujourd'hui je reçois Claire Cassis. Bonne écoute.
Bonjour Claire.
Bonjour.
Je voulais en introduction te dire que j'ai eu beaucoup de retours positifs des étudiants sur ta présentation en amphithéâtre. Ils étaient à fond, ils étaient transcendés, vraiment, voilà, sur la notion du métier d'architecte. Et c'est normal parce que donc, tu es architecte, diplômé de l'ENSA Strasbourg, puis de l'IUR, donc l'Institut d'urbanisme d'aménagement régional, auparavant à Aix-en-Provence, et aujourd'hui au sein de l'IMVT, donc l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires, qui regroupe l'ENSA Marseille, l'ENSP, donc l'École nationale du supérieur du paysage. J'ai mon quota d'acronymes pour aujourd'hui, et nous sommes donc dans l'IMVT. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi tu es là ? Parce que en fait, tu es arrivé dans l'établissement public foncier hors Méditerranée en 2016.
Pas foncier. Ah, l'établissement public d'aménagement.
L'établissement public d'aménagement hors Méditerranée. Donc on va essayer de le circonscrire en début. On a dit qu'on avait un peu de mal ce matin. Tu es arrivé en stage, tu as assisté le directeur de l'architecture, du développement urbain et du développement durable. Et depuis 2018, tu es chef de projet en urbanisme transitoire et d'activation. Et l'enthousiasme des étudiants, il vient de spoiler alert, que tu t'es inventé complètement ton poste au sein de cet établissement public d'aménagement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Euroméditerranée ?
Oui. Euroméditerranée, c'est donc un établissement public d'aménagement qui œuvre sur le territoire marseillais sur un périmètre de 480 hectares aujourd'hui, qui existe depuis 1995. Il y a eu un premier périmètre, puis une extension qui a été votée en 2007 et qui a pour objectif de requalifier l'arrière portuaire et donc de faire du projet urbain avec des opérations immobilières, des espaces publics qui ensuite sont remis en gestion aux collectivités et tout ce qui va avec et qui fait la ville. Donc c'est un trait d'union entre le centre-ville de Marseille et les quartiers nord.
Sachant que la construction du port a complètement coupé l'ensemble de ces quartiers-là de la mer.
Tout à fait.
Et de l'accès. Donc, tu nous le dis, ça concerne des constructions de bâtiments, mais aussi des infrastructures, des tunnels, des data centers, des transports en commun, du tramway.
Des équipements, oui.
C'est quelque chose d'assez énorme. Et il y a une troisième tranche qui vient d'être signée.
Alors, il y a eu des annonces d'un troisième périmètre qui, pour l'instant, n'est pas encore défini, donc à l'étude. On est dans une phase d'étude d'un troisième périmètre, mais rien n'est arrêté.
Rien n'est arrêté. Et le parc des Égalades, c'est le dernier projet qui vient de sortir, donc concours emporté par Michel Devin.
Tout à fait. Ouais. Michel Devin, mandataire d'un très grand parc, justement pour ce périmètre-là. Donc, on se situe au niveau entre Bougainville et Gèze, donc au début des quartiers nord, où il y a peu d'espace de parc et de verdure. Et donc, aujourd'hui, c'est un faisceau ferroviaire qui va être complètement transformé en parc de 14 hectares avec le ruisseau des Égalades qui aujourd'hui est busé, canalisé et passe sous le faisceau ferré et donc sera remis à ciel ouvert et avec des berges aménagées, tout un gros projet de végétalisation, d'usage qui va avec.
Et de reconstitution, de reconsidération de ce bassin versant.
Tout à fait.
Au sein d'Euromed, juste pour préciser, ceux qui ne connaissent pas forcément, on trouve des signatures quand même d'architectes locaux ou internationaux comme la tour de la CMA, CGM par Zahad, l'agence de Zahadid en 2010, la tour Mirabeau par Alaouardé en 2023, la Marseillaise de Jean Nouvel en 2018, etc. Et bientôt la future cité judiciaire, il me semble, aussi. Donc toi, quand tu arrives dans cet établissement public, tu passes du côté d'architecte à côté maîtrise d'ouvrage. Il y a certainement un changement de champ lexical, changement de langage et presque une grammatique différente, d'autres règles. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu t'es adaptée?
Oui, ça a été une découverte parce que dans le cadre des études d'architecture, à mon époque, on était assez peu sensibilisés à cet aspect-là ou ce métier-là de maîtrise d'ouvrage public, en l'occurrence. Donc ça demande un petit temps d'acclimatation et de compréhension. C'est beaucoup d'acronymes aussi. Il y a une dimension réglementaire qui est très présente, avec laquelle j'étais assez peu familière suite à mes études. Je ne sais pas particulièrement par rapport au langage et au champ lexical. On se retrouve en interface avec les documents réglementaires, des compétences aussi de bureaux d'études très techniques, des AMO. On est très entouré. Il y a beaucoup de compétences différentes qui nous accompagnent dans la réalisation du projet urbain.
Alors, comment t'es arrivé en fait à définir en fait ce fameux temps creux? Je crois que ça part d'un mémoire de stage.
Quand je suis arrivée chez Euro Méditerranée, j'étais plutôt en charge d'études urbaines. Notamment sur le ruisseau des Galates, par exemple, qu'on a évoqué avant, le lien ville-port, des choses comme ça, plutôt stratégique, on va dire, assez peu opérationnel. Et mon constat en arrivant chez Euro Méditerranée, c'est que la fameuse extension d'Euro Méditerranée, donc le deuxième périmètre, a été votée en 2007. Moi, je suis arrivée en 2015, je crois, chez Euromed, ou 2016. Et il y avait très peu de choses concrètes liées au projet qui avaient pris vie depuis 2007. Et c'est là où j'ai pris la mesure des temps creux et des temps longs, des process administratifs, de création de ZAC, de tout un tas de choses. Et ma proposition au sein d'Euro Méditerranée, ça a été de dire comment on peut occuper un peu différemment ces temps creux pour activer aussi un morceau de territoire qui va accueillir des transformations qui sont massives, qui sont à un moment donné très rapides, quand bien même il y a des temps très longs, après ça s'accélère d'un coup d'un seul, et que tout ça s'accompagne et ça se prépare, et on peut faire plein de choses aussi de manière plus agile, plus légère, et donc c'était un peu ce parti pris de dire où sont un peu les brèches dans ce temps-là, et comment on peut les occuper, les habiter et tester des choses.
Et alors, comment tu as formalisé ce concept et comment tu as obtenu les validations et comment tu as façonné ce poste finalement, en fait, d'où ça vient, d'où ça...
Et dans le cadre de ce stage, j'ai fait un mémoire de fin de stage et j'ai proposé un peu deux points de vue, celui de l'aménageur avec ses temps longs et ses méthodes aussi et ses contraintes. Et j'ai croisé avec une expérience passée qui était plutôt une approche avec des collectifs d'architectes qui font des petits aménagements légers, plutôt participatifs, temporaires la plupart du temps. Et donc dans ce mémoire-là, j'essayais de montrer que ces deux pratiques-là pouvaient se croiser et pouvaient se nourrir l'une l'autre. Côté aménageur, c'est faire de la place à ces pratiques. Et côté collectif, c'est venir aussi nourrir un projet urbain sur le plus long terme. Et donc voilà, c'est parti de ce mémoire pour poser les choses aussi de manière un peu théorique et puis essayer de projeter un cas pratique, hypothétique. Et j'ai présenté ça du coup au sein d'Euro Méditerranée. Pour prendre la température aussi, de est-ce que c'était quelque chose qui pouvait trouver sa place et c'est quelque chose qui a trouvé sa place et on m'a invité à poursuivre ces réflexions et à les mettre en œuvre. Et donc ça a petit à petit constitué une fiche de poste, un poste dédié qui n'existait pas avant.
Et alors, tu as commencé par quoi en cas pratique?
Alors, j'ai commencé par plutôt proposer une approche stratégique.
Ouais. du coup, plutôt côté aménageur.
Plutôt côté aménageur.
Normal.
Ouais.
Enfin, c'est
voilà. Ben, pour que ça puisse parler aux aménageurs auxquels je m'adressais et dont je faisais partie. Donc, plutôt une approche stratégique, presque. Nous, on a des plans guides. On appelle ça des plans guides qui sont des visions. Très dézoomé de l'ensemble du périmètre avec des projections à très long terme qui évoluent au fur et à mesure des années et qui se précisent au fil de l'eau. Et donc j'ai proposé une sorte de plan guide transitoire d'activation en faisant un repérage des opportunités foncières, que ce soit dans l'espace public, que ce soit des opportunités foncières bâties, vacantes, des choses comme ça. Et j'ai montrer un peu via un plan guide comment tout ça pouvait faire une nouvelle strate du projet urbain voilà.
Et on aboutit sur le projet MOVE.
Et voilà, ça a donné lieu au nom de cette démarche, donc c'est devenu une démarche portée par l'établissement qui s'appelle MOVE. Alors il fallait trouver un nom pour rassembler tout un tas d'initiatives assez variées et c'est assez protéiforme, donc c'est pas toujours évident de le raconter simplement et clairement,
et faut pas le simplifier non plus,
et voilà. Et donc ça rassemble différentes typologies d'actions. Globalement, le dénominateur commun, on va dire, c'est que c'est un ensemble d'actions de court terme qui s'adressent directement à l'usager. Après, l'usager, ça peut être un habitant, un visiteur, c'est n'importe qui pratique ce morceau de territoire. Et ça se décline avec des occupations temporaires de bâtiments, avec des préfigurations d'espaces publics, des actions beaucoup plus légères sur l'espace public, vraiment d'urbanisme tactique, sur des parcours, sur des aménagements très légers, mais avec une dimension participative très forte. Ça peut être de l'événementiel, des fêtes de quartier. Il y a tout un volet aussi d'accompagnement d'acteurs très souvent associatif, du milieu de l'ESS, qu'on aide à se développer.
ESS, donc économie
sociale et solidaire, pardon, et beaucoup circulaire aussi. Ouais. Il se trouve que dans les projets MOVE, il y a pas mal d'acteurs de l'économie circulaire. Donc autour du réemploi, des circuits courts, des choses comme ça. Et donc l'idée étant de...
D'imbriquer l'étendue du projet.
Ouais, et puis de...
Tisser du lien social.
Tisser du lien social, de faire rayonner aussi ce territoire et de faire venir aussi les gens pour d'autres réseaux. C'est un territoire qui était plutôt traversé. Il y avait assez peu de lieux de destination, entre guillemets, parce qu'on est sur ce trait d'union pour l'instant, centre-ville, quartier nord. Et donc l'idée, voilà, c'est de créer de l'emploi aussi, d'accompagner un peu ce développement-là.
Soutenir un peu les initiatives locales. Ouais. Et concrètement, par exemple, tu as un exemple ?
De projets ?
Bien sûr.
Ouais, y en a une quinzaine de projets qui ont existé, existent encore, et puis d'autres qui vont se développer par la suite, j'espère. Mais il y a le projet des ateliers Jeanne Barré, qui est un tiers-lieu artistique et culturel. Avec une forte ouverture sur le quartier, des liens avec les écoles, des ateliers gratuits avec les habitants. Et c'est aussi un lieu de production artistique et de diffusion. Donc ça mixe différents piliers programmatiques. Il y a la Casanova, qui est une deuxième occupation d'un acteur MOVE, qui est la Réserve des Arts.
Ouais.
Donc ils ont eu un premier lieu pendant 3 ans et ils ont déménagé dans un nouveau lieu, toujours dans le cadre de MOVE, pour à nouveau 3 ans. Et le projet a évolué aussi d'un lieu à l'autre et dans le développement de l'association qui est la Réserve des Arts, qui fait de la collecte et de la valorisation de matériaux à vocation du secteur culturel. Et qui développe aussi maintenant des résidences d'artistes de plus en plus, des sorties de résidences d'artistes, donc avec des événements, une ouverture sur le quartier, des choses comme ça. Il y a une champignonnière, il y a la recyclerie sportive.
Une champignonnière ?
Ouais. Il y a Mycotopia qui fait une champignonnière.
La recyclerie sportive, c'est
recyclerie sportive, ils sont vers Bougainville. Ils ont plusieurs types d'actions, mais c'est un lieu de vente d'équipements sportifs à prix solidaire. Ils ont énormément d'actions avec le tissu local très très proche, de pédagogie autour du vélo. Pardon.
Je t'en prie.
Donc ils travaillent beaucoup avec les écoles pour apprendre aux enfants à faire du vélo. Il y a des ateliers de co-réparation pour que les gens apprennent à réparer eux-mêmes leur vélo. Ils ont un chantier d'insertion, ils ont monté un chantier d'insertion. Voilà, c'est la recyclerie sportive de manière très 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 synthétique. Il y a le projet du fronton qui est un autre type de projet récent, pour le coup très récent, qui est très chouette, qui est un montage un peu différent parce que c'est un tiers-lieu, parce qu'il y a plusieurs volets programmatiques. L'exploitant, c'est l'association Banlieue Santé. Donc, c'est un bâtiment qui est patrimonial, dont Euromed a assuré la réhabilitation plutôt frugale, avec pas mal de réemploi. Donc, c'était aussi, au final, à travers un projet temporaire et transitoire. Nous, ça nous a permis de tester des montages de marchés publics, travaux, maîtrise d'œuvre, etc., en intégrant un maximum de réemploi et en testant des outils juridiques aussi, en fait, pour permettre ça dans les marchés publics. Et c'est quelque chose qu'on fait peu, et on fait beaucoup plus de constructions neuves et assez peu de réhabilitation. Donc c'était intéressant sur un projet de réhabilitation de le tester, et c'était possible. Et ça a très bien fonctionné. Et du coup, l'occupation derrière, ça va être ça a été inauguré le 2 avril, donc c'est ouvert. C'est un café au rez-de-chaussée solidaire, une maison du projet pour Euromed, qui soit sur le territoire et pas
dans les docks.
Voilà, pas dans les bureaux d'Euromed. Ouais. Donc vraiment à proximité des chantiers et des transformations, donc où il y a des permanences qui sont assurées. Il y a une galerie d'exposition aussi. C'est un lieu qui est mis à disposition par Banlieue Santé de tout un tas d'initiatives et acteurs aussi associatifs ou pas que locaux qui sont en besoin d'espace pour... Donc il y a des cours de français, il y a de l'aide aux devoirs, il y a des actions de sensibilisation aussi à la santé, à la vue. Ils ont des actions comme Plus belle la vue où ils permettent des lunettes... ils font un diagnostic visuel et ils donnent, c'est gratuit, des lunettes à des gens qui n'ont pas de mutuelle et accès aux soins. Et à l'étage, c'est des bureaux pour les salariés d'Euromed.
Qui travaillent dans le coin.
Voilà, qui travaillent dans le coin, qui sont beaucoup sur les chantiers. Et, ouais. Pour Banlieue Santé aussi, pour les équipes de Banlieue Santé. Et il y a un petit espace de coworking avec des indépendants aussi.
Donc, en fait, le projet MOVE arrive à faire bouger Euromed dans le quartier, presque, complètement.
En tout cas, a permis à Euromed
de s'inscrire dans son territoire. Et, parce que, c'est assez fantastique. Il y a quelque chose dont tu nous parlais lors de la conférence, qui est une expression que j'aime beaucoup, c'était les bénéfices et les contraintes, ce que tu appelles les cailloux et les pépites. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de tout ça?
Ouais. Alors j'avais noté des pépites et des cailloux.
Sachant que c'était, pour les définir, c'est un peu les pépites, c'est toutes les belles choses qui émergent, et les petits cailloux, c'est ce qu'il faut arriver à polir ou passer outre.
Ou à intégrer, faire avec. C'est ça. Et j'avais fait un peu trois catégories pour les pépites et les cailloux au sein d'Euromed, dans le cadre de la démarche MOVE et personnellement. Et du coup, au sein d'Euromed, dans les pépites, il y avait, et ça c'est ce qui me plaît aussi depuis le début où j'y suis, c'est de faire un pas de côté par rapport au métier traditionnel de l'aménageur où je pense qu'initialement, en sortant de mes études d'architecte, je me projetais absolument pas dans la maîtrise d'ouvrage public. J'avais mes connaissances aussi de ces métiers-là, parce qu'ils sont nombreux et de ce monde-là. Et je trouve très intéressant de venir proposer aussi une approche qui n'était pas forcément gagnée d'avance. la liberté de proposer et de mener à bien des projets dans un cadre de confiance. Et donc, c'est un aménageur qui a permis ça et je trouve que c'est précieux. Et des sujets passionnants et une montée en compétences permanente parce que c'est une démarche qui m'amène à ce que chaque projet soit très singulier, au cas par cas, rien n'est reproductible vraiment.
Il
faut se réinventer tout le temps et réinventer le comment on le fait, pourquoi on le fait, où est-ce qu'on le fait, avec qui on le fait. Et c'est à la fois un peu épuisant et à la fois c'est ce qui fait que on s'en dit pas.
Ouais. Voilà. Oui, puis chaque fois, c'est des nouvelles règles administratives, juridiques.
Et puis, il y a aussi des contextes politiques qui sont fluctuants. On est forcément impacté en tant qu'établissement public par le climat politique, l'actualité politique, etc. Donc, ça participe. Dans le cadre de la démarche MOVE, dans les pépites, il y a la diversité des sujets, le côté couteau suisse. Qui, moi, me convient bien. j'ai l'impression d'avoir plein de nouveaux métiers en moi sans être forcément experte à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup d'appui, que ce soit en interne ou avec des prestataires qui, eux, le sont. J'ai quand même... ça m'a permis d'acquérir des notions quand même solides, que ce soit dans le réglementaire, le juridique, le technique,
la concertation.
La concertation aussi, bien sûr. Bien sûr. Et donc ça, très intéressant. Et le fait de faire du terrain, parce que le métier d'aménageur, ça peut être un métier beaucoup de bureau, finalement. Ça dépend beaucoup des métiers au sein des équipes, mais il y a des conducteurs d'opérations qui sont sur le chantier quotidiennement, mais il y a aussi des gens qui sont derrière l'ordinateur et beaucoup en réunion et en bureau. Et donc ça, c'est moi, mon rôle à moi, il mixe vraiment les deux et ça me convient bien aussi. Personnellement, c'est la souplesse et l'agilité au quotidien qui me plaisent et le droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qui est posé depuis le début où je pilote cette démarche-là et qui est accepté aussi par ma hiérarchie et qui permet de tester des choses et d'avoir le droit de se planter. Et qu'on peut poser des ambitions au départ et on se rend compte que c'est pas forcément atteignable. Et c'est OK. Et dans les cailloux, au sein d'une institution comme Euroméditerranée, il y a les enjeux politiques, économiques qui sont certains et qui sont contraignants parfois, mais qui peuvent aussi être un appui à d'autres moments. Donc, le fait de gérer des prestataires et apprendre à déléguer, ce qui n'est pas toujours évident avec les études que j'ai faites, je trouve, parce qu'on pilote seul les projets d'architecture, enfin de conception, on est dans la conception de A à Z, et c'est d'ailleurs toujours très compliqué de mettre un point final à un projet, et ça peut être sans fin. Et là, il faut vraiment apprendre à lâcher, à faire confiance à d'autres qui vont faire pour une partie du travail. Donc ça vient mobiliser d'autres aspects, de plus de coordination.
Mais ça mobilise aussi une certaine souplesse d'adaptation du projet.
Et de cadrage, en fait. Si le cadrage est bon au départ, ça fait la réussite du projet derrière, et c'est pas si évident de bien cadrer et de bien coordonner. Se confronter au code des marchés publics, ça aussi c'était une découverte, et pas forcément évidente, c'est dans mes cailloux, mais en même temps pareil, ça peut être quand on le maîtrise, ça peut être des leviers, ça peut être il y a l'image de Euroméditerranée dans les cailloux, c'est quelque chose qui est surtout dans la démarche MOVE, qui est très en lien avec les habitants, avec les usagers. Euromed a pas forcément, historiquement, a pas forcément une très bonne image auprès du grand public. Parce que c'est un projet urbain qui est massif, parce que tout projet qui vient bousculer aussi et changer, amener du changement et des transformations, ça...
Parce que c'est un projet aussi qui a démarré dans les années 90 et qui justement met à la... qui a l'intelligence adaptative justement de pouvoir toujours se renouveler en fait.
Oui. Ouais.
Et qui au départ est arrivé comme un gros projet qui se pose sur la ville.
Et puis il y a aussi dans l'imaginaire qu'on peut avoir de l'aménageur, il y a beaucoup d'amalgames.
Oui.
Finalement, les gens ne savent pas toujours quel est le rôle de l'aménageur. et la limite aussi de notre rôle et qu'il y a aussi chaque collectivité a ses responsabilités et ses compétences.
Alors ça c'est bien qu'on le précise, c'est-à-dire qu'en fait l'aménageur Euromed il va s'occuper d'un plan guide, il va s'occuper des espaces publics,
de les mettre en œuvre, mais après ils sont remis en gestion aux collectivités, ouais. Ville ou métropole selon les compétences et selon le type d'espace public. Mais oui, il y a la ville, la métropole, la région et le département dans le conseil d'administration d'Euroméditerranée. Et chacun a sa part dans la réalisation et la vie de ce projet-là aussi. Et qu'il y a souvent un amalgame qui est fait entre le rôle de chacun.
Ça m'amène à une question que Thomas Nakajima, ancien étudiant, avait posée. C'est est-ce qu'il y a des risques que l'urbanisme transitoire enclenche des processus de gentrification? Puisque là, ça... encore du sujet.
Et ouais. Alors, je ne sais plus exactement quelle réponse je lui avais apportée, mais oui, ça fait partie des critiques qui sont souvent formulées face à ces démarches d'urbanisme transitoire qui se multiplient aussi en France. Parce que ça amène de nouveaux acteurs aussi, de nouveaux publics. Ça participe de fait à un phénomène de gentrification. Et pour autant, je crois que c'est ce que je disais, c'est que ça amène aussi de la mixité, des services là où il y en a très peu.
Une économie de l'emploi.
C'est exactement ça, ça crée de l'emploi, ça crée du lien. On va pas revenir sur le pourquoi la démarche MOVE, mais ça me permet quand même tout ça. Et que c'est des territoires qui, au départ, manquent cruellement de beaucoup de choses. Donc ça ne vient pas répondre du tout à tout et ça n'a pas cet objectif-là. Mais ça amène quand même
Et alors, dans tes petits cailloux, ouais. Et je pense qu'on va terminer là-dessus, puisqu'on est presque à la fin, et ça rejoint une question d'Amélie Rosset, qui nous avait posé la question, en fait, tu ne dessinais plus.
Oui.
Et ça, c'était un gros caillou.
C'était un caillou personnel.
Ouais. Et comment tu le gères? Quelles sont tes autres compétences?
Et oui, en effet, je ne dessine plus. Ça m'a perturbé et manqué les premières années, et plus du tout maintenant, quelque part, parce que c'est une autre manière de faire du projet, et c'est plus c'est plus à travers le récit maintenant, je crois, et la manière dont je les projets que je choisis de mettre en place et le pourquoi et le comment et voilà que je trouve une forme de créativité, on va dire, et une manière de raconter, parce que le dessin c'est une manière de raconter,
de transmettre
ce qu'on a dans notre tête, quoi, quelque part, et de le partager, ouais. Et donc j'ai trouvé plein d'autres manières de partager autre que le dessin et qui fonctionne, en fait.
Oui, de mettre en œuvre cette vision, entre guillemets, ou cette manière de le faire. Donc, les projets MOVE, c'est une journée, un événement, etc. Ou plus longtemps, j'imagine que ça peut durer plus...
Les projets MOVE, c'est...
plusieurs mois.
Oui, plusieurs années. Ça dépend vraiment de quoi on parle.
En conclusion, je voulais, parce qu'on n'en a pas parlé, je voulais qu'on en parle, mais en fait, tu as été, pendant tes études, tu as fait une année de césure et tu es partie au Chili.
Ouais.
Et tu es partie, tu as fait un stage chez Elemental,
ouais,
à Santiago.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu te dirais, toi, rétrospectivement
Que j'ai bien fait de la faire cette année de césure, ça c'est sûr. Parce que c'était un souhait de ne pas partir en Erasmus, de vraiment faire une pause et plutôt de voyager et partir un peu explorer, de se laisser surprendre. Et que quelque part, c'est peut-être pendant cette année de césure qu'il y a eu les prémices de ce que je fais aujourd'hui, ou la rencontre avec d'autres pratiques architecturales dans le cadre de mon voyage, plutôt avec la Ciudad Abierta ou des projets comme ça qui sont à Valparaíso au Chili. Et dans le cadre du stage chez Elemental, parce que c'était une approche très participative du logement qui mixait des micro échelles et des énormes projets urbains. Et finalement, c'est un peu ce que j'ai, c'est ce que je fais aujourd'hui, un gros projet urbain avec des micro échelles. Donc, hyper enrichissant et ça m'a redonné le goût de revenir et de terminer mes études avec un autre regard, quoi.
Alors, pour préciser, Elemental, donc c'est une agence qui est au Chili, à Santiago, tenue par Alejandro Aravena. Aravena, voilà. Et qui a eu de nombreux prix.
Dont le Pritzker.
Dont le Pritzker, exactement.
Le Graal.
Je te remercie.
Eh bien, avec plaisir.
À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode en compagnie de Claire Cassis. Merci pour votre écoute.